temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À l'écoute, Armand Dubois au micro. Après des études de piano au Conservatoire d'Aix-en-Provence qui lui a valu un premier prix, notre invité a décidé de passer à un autre instrument à clavier, l'orgue. Un coup de cœur probablement qui l'amènera à entreprendre des études à Paris auprès de Maurice Duruflé et de Jean Langlais. Elle poursuit ensuite ses études à Marseille, études couronnées par une médaille d'or et un premier prix d'interprétation. Au gré du temps, elle devient assistante d'enseignement au Conservatoire national de la région de Lyon et en 1979, elle obtient le poste de titulaire des orgues à la cathédrale d'Aix-en-Provence, poste qu'elle occupe toujours à la cathédrale Saint-Sauveur, conjointement à une charge d'enseignement au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Avec grand plaisir, avec nous, Chantal Deseux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est pas votre premier passage au Québec?
Non, bien sûr, parce que j'ai rencontré Jean-François Sénard, qui est maintenant mon époux, et donc lui a de la famille, nous sommes venus très souvent, dirais-je.
Et l'été dernier, vous êtes venu cependant donner une première série de récitals.
Oui, je suis venu particulièrement pour jouer sur deux orgues prestigieux de la ville de Montréal, l'orgue de Notre-Dame et l'orgue de l'Oratoire Saint-Joseph. Voilà.
Dites-moi, je disais en présentation que vous avez d'abord été une grande interprète du piano. Peut-on le dire?
Oui, disons que, effectivement, j'ai beaucoup aimé le piano, mais lorsque j'ai découvert l'orgue, le piano n'a pratiquement plus existé pour moi.
Qu'est-ce qui a fait cette différence? Qu'est-ce qui fait? Parce que fondamentalement, ce sont bien sûr des claviers, mais les deux instruments ne se ressemblent pas du tout.
Non, pas du tout. Le principe du clavier, bien sûr, mais l'orgue, c'est un orchestre qu'on a sous les doigts. On le compare, hein, quelquefois. On se sent un petit peu chef d'orchestre. Moi, j'étais chef de chœur, d'ailleurs. Donc, et beaucoup d'organistes sont chefs de chœur, chefs d'orchestre. Il y a une espèce de concordance de situation. Et il y a le choix des couleurs, il y a le toucher qui est différent. Et puis, le monde de l'orgue vous fait découvrir des instruments très différents sur le plan de la sonorité, mais aussi sur le plan du buffet. Vous avez des magnifiques instruments partout. Hein.
Justement, vous ouvrez là quelque chose d'intéressant. Au niveau de l'adaptation face à ces instruments qui sont parfois très différents, qui contiennent souvent un très grand nombre de jeux, d'autres un nombre de jeux plus restreint, est-ce que pour l'organiste, c'est une adaptation qui est difficile à chaque fois?
C'est-à-dire que ça fait partie du métier de l'organiste. Sinon, on ne peut pas jouer, bien sûr. Donc, il faut travailler beaucoup sur l'instrument avant de pouvoir assurer un concert décent, dirons-nous, parce qu'il faut découvrir, il faut préparer. Voilà, Dieu merci, beaucoup d'instruments ont des combinateurs, en tout cas ceux sur lesquels j'ai joué ici à Montréal. Bon, donc c'est facile puisque vous pouvez enregistrer vos couleurs. Mais moi, à la cathédrale d'Aix, j'ai un instrument peut-être plus modeste, mais qui n'a pas de combinateur. Donc, on en est encore à tirer les jeux, donc choisir ses couleurs sonores.
Donc, au plan de l'interprétation, c'est peut-être même plus difficile parfois de se retrouver avec un vieil instrument.
Oui, je pense que ça doit être plus difficile pour celui qui a l'habitude de se servir d'un combinateur. Mais bon, après, c'est le métier aussi.
Hein. Bien sûr. On reviendra sur ce coup de cœur. Vous nous proposez, et tout au cours de l'heure, on entendra bien sûr beaucoup de musique d'orgue. La première pièce, c'est le prélude et fugue sur le Kyrie du premier ton de Henri Dumont que vous interprétez. C'est un enregistrement qui date de quelques années, cependant.
Oui, ça, tout à fait.
Si on disait un mot sur Henri Dumont?
Écoutez, c'est un compositeur de l'époque. Ça fait partie d'un enregistrement de pièces de la musique post-révolutionnaire en France. Donc, à cette époque-là, les musiciens ont fait une musique un peu, bon, je ne vais pas dire folle, c'est un peu exagéré, mais enfin, peut-être pas forcément intéressante quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, mais voilà, on se relâche, quoi, après ce qu'on a vécu pendant la Révolution. Donc, bon, là, c'est assez modeste quand même, le Kyrie est très sage, c'est de la musique religieuse, mais il y en a d'autres, le Lefebvre Vély, par exemple, qui a écrit beaucoup de musique, il nous fait des choses complètement exceptionnelles. Et puis d'autres, moi j'ai joué, j'ai joué aussi d'un compositeur qu'on ne connaît pas très bien, Benoît, une messe aussi. Je l'ai joué à l'oratoire l'été dernier. Bon, c'est assez amusant, ça fait entendre des tas de registrations différentes. Voilà. Alors, mais c'est une musique particulière.
On va découvrir. D'entendre Prélude et Fugue sur le Kyrie du premier ton d'Henri Dumont, interprété par Chantal Dezeux, qui est avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir que de vous accueillir ici au Québec. Vous êtes assez présente sur la scène française dans différents lieux, il faut bien le dire, des églises, principalement là où se retrouvent les grands orgues.
Mais oui, bien sûr, la plupart sont dans des églises. Bon, il y en a tout de même dans des auditoriums, entre autres à Aix-en-Provence au conservatoire. Il y a maintenant un orgue dans l'auditorium et ça permet de jouer avec des instrumentistes plus facilement.
Je reviens sur ce coup de cœur dont vous parliez en tout début d'émission. Vous quittez le piano, vous entendez l'orgue et soudainement cette envie de devenir interprète d'un tel instrument, ça bat sur vous.
Eh ben pas du tout. Alors c'est, voilà, tant pis, j'ai aucune honte à le dire. Je connaissais mal l'instrument orgue avant de m'y mettre. Simplement, j'ai pensé qu'après des études de piano, pourquoi pas me mettre à l'orgue, puisque cet instrument, le clavier fait quand même un point commun. Et quand la première fois que j'ai posé les mains et que j'ai vu qu'il fallait poser les pieds également sur un orgue, cela m'a étonnée. Mais après, le répertoire m'a complètement conquise et je ne l'ai pas quitté, hein, depuis toujours.
Et vous avez parlé des nombreux instruments. J'imagine la possibilité extrême que représente cet instrument de mettre différentes couleurs, différentes tonalités, est aussi quelque chose de captivant pour un interprète.
Mais bien sûr, on ne joue jamais les mêmes morceaux de la même façon. On a tellement une telle richesse d'instruments par rapport aux époques, par rapport aux lieux. L'orgue français, l'orgue allemand, enfin, l'orgue anglais, enfin, on pourrait dire tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment une richesse extrême, vraiment extrême. On est vraiment chanceux.
C'est une chance, effectivement, de pouvoir découvrir la sonorité d'un orgue. Et là, je vais vous proposer quelque chose qui met peut-être en lumière cette couleur qu'on peut donner à un tel instrument. Je vais vous faire entendre Keith Jarrett. Quand on évoque le nom de Keith Jarrett, on pense, bien sûr, à l'homme de jazz.
Bien sûr.
Mais qui a fait aussi parfois des enregistrements sur les fugues de Bach. Mais Keith Jarrett a poussé l'excitation musicale jusqu'à l'enregistrement d'un merveilleux hymne du souvenir dans le monastère d'Ottobeuren, situé en Bavière. C'est une abbaye bénédictine, l'un des plus importants exemples d'architecture de style baroque de l'Allemagne du Sud, et qui est dédié à Saint-Alexandre et Saint-Théodore, et qui a été fondée en 764 par Sylac. Ça, c'est pour l'histoire. Et on peut dire que 1000 ans plus tard, elle était assez riche pour s'offrir un des plus beaux édifices baroques de Bavière. La première pierre fut posée le 5 mai 1711, et la consécration solennelle a eu lieu le 28 septembre 1766. Soit 55 ans plus tard. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas, bien sûr, l'instrumentation d'aujourd'hui pour construire de magnifiques cathédrales. L'église possède 3 orgues. 2 sont situés dans le chœur, le 3e sur une tribune à l'arrière de l'église. L'orgue de tribune est de Steinmeier, il date de 1957. L'orgue de l'épître est de Charles-Joseph Rieppe et date de 1766. L'orgue de l'évangile, également de Rieppe, date de 1762. C'est celui sur lequel joue Keith Jarrett. Alors écoutons donc cet hymne du souvenir, une improvisation à la Keith Jarrett.
Thank you.
C'est joli, n'est-ce pas?
Oui, très joli, oui.
Et ça ouvre, on peut constater à travers cela que ça ouvre plein de possibilités, y compris pour quelqu'un qui, généralement, œuvre dans la sphère du jazz ou dans la sphère de la musique un peu plus légère et qui, soudainement, va se permettre de faire éclater cet instrument avec des couleurs auxquelles nous ne sommes pas nécessairement habitués.
Mais oui, mais justement, l'orgue permet ce genre de choses. Et on parle beaucoup actuellement de l'orgue de cinéma, par exemple.
Oui.
Et il y a des films qui sont redonnés avec accompagnement improvisé sur un orgue de cinéma. Moi, Aix-en-Provence n'est pas loin de La Ciotat, la ville des Frères Lumière. Et ils ont restauré le cinéma Eden, qui était le premier cinéma. Et ils vont avoir un orgue là, à l'intérieur, pour justement pouvoir accompagner les films. Et forcément, c'est une autre musique que celle qu'on entend d'habitude sur les orgues d'église.
Est-ce que vous avez un répertoire de prédilection?
Écoutez, non, je ne vais pas dire tout à fait ça parce que ça dépend des époques. Voilà, non. J'aime tout jouer et même, vous savez, on parle justement de musique un peu spéciale. Vous savez, un organiste fait pas mal de mariages. Et ben, vous savez, les mariés, ils ne connaissent pas forcément la musique d'orgue et ils aiment beaucoup une musique de film, par-ci, une chanson. Alors, on est amené à faire, nous, à l'orgue, pour leur mariage, des transcriptions, c'est-à-dire un arrangement de ceux qu'ils aiment et puis ils sont tellement heureux que ça fait plaisir et je dois dire que je dis oui volontiers.
Et puisque vous parlez de mariage, voilà une musique qui pourrait peut-être servir de musique de mariage parce que c'est très vivant. C'est le troisième mouvement marqué Allegro du concerto en si mineur de Johann Walther et c'est Catherine Todorovsky qui est au clavier. Vous allez voir, c'est très palpitant.
Oui, je connais, c'est très très gai aussi, oui.
Thank you. Avec nous aujourd'hui, Chantal Dezeux, organiste en provenance d'Aix-en-Provence. Alors, on est très privilégiés de vous avoir à ce micro. Parlez-moi un peu de cette série de récitals que vous avez donné l'été dernier à Montréal.
Écoutez, on ne va pas parler de série, mais enfin, malgré tout, j'ai eu le plaisir de jouer sur l'orgue de l'Oratoire Saint-Joseph, et qui est un magnifique instrument avec des couleurs très chatoyantes. Et également sur l'orgue de Notre-Dame, donc dans le Vieux-Montréal, et qui est un orgue encore totalement différent. Ben c'est ce qu'on disait, hein, les orgues ne se ressemblent pas. Où j'ai pu jouer du Guillemant, de la musique symphonique, bon, qui est un gros, gros instrument. J'ai pas l'équivalent, évidemment, à Aix-en-Provence, avec la cathédrale de Saint-Sauveur. Mais bon, à côté, nous avons aussi un orgue un peu important qui était l'orgue de Cochereau, personnel de Cochereau, qui a été remis là, dans un village à côté d'Aix-en-Provence. Mais bon, c'est vrai que ben, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, on a des impressions différentes. Voilà, c'est vraiment merveilleux.
Est-ce qu'on aura le plaisir de vous revoir au Québec sur encore d'autres instruments d'orgue à travers... Ben, parce qu'il y en a des églises ici.
Mais oui, mais très volontiers, écoutez, très volontiers, bien sûr.
Le public répond bien de plus en plus, dans le sens qu'il me semble qu'on est en train de réhabiliter cet instrument, qui était bien sûr associé aux cérémonies religieuses. La pratique religieuse a bien sûr un peu été évaporée d'une certaine façon, mais l'instrument, lui, conserve toute la beauté qu'il avait.
Ah oui, bien sûr, il conserve la beauté qu'il avait. Et il y a un répertoire énorme et qui, malheureusement, malheureusement, n'est plus tellement employé dans l'Église. Je ne ferai pas de commentaires, mais enfin, je crois que l'Église va vers l'utilisation des cantiques et puis la musique d'orgue proprement dite. On dirait que la prière ne passe pas par la musique pure.
Et elle passe par des... Dieu sait qu'elle passe par la musique.
Mais bien sûr.
Alors, on va se permettre, pour terminer cette première pause, un petit air de Henry Purcell. If music be the food of love, ça répond un peu à ce qu'on vient de dire. Hein. La musique est vraiment peut-être cet aliment de l'amour. C'est incommensurable. Il faut parfois l'entendre à maintes reprises pour découvrir toute sa richesse.